Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre ce soir. Étudiants zadistes migrants, mais que fait la police ? C'est un visage fermé au regard droit et entouré de barbelés. Le visage en noir et blanc du président Emmanuel Macron qui apparaît en janvier dernier à la une de l'Obs avec ce titre « Bienvenue au pays des droits de l'homme ». Le magazine qui s'interroge sur la violence inédite dont sont victimes les migrants aux tentes éventrées à l'eau empoisonnée de gaz lacrymogène, violence attribuée aux forces de l'ordre et répertoriée dans de nombreux rapports d'ONG. Ces derniers jours, il y a eu aussi d'autres épisodes suscitant d'autres sortes d'interrogations, affrontements entre zadistes et gendarmes à Notre-Dame-des-Landes, entre étudiants et CRS dans plusieurs universités occupées. Déjà en 2016, plusieurs députés, chercheurs, journalistes, avocats s'inquiétaient d'un changement de doctrine du maintien de l'ordre. C'était pendant les manifestations contre la loi travail, quelques mois après le décret de l'état d'urgence, deux ans après la mort de Rémi Fraisse tué par une grenade offensive sur le barrage de Sivens. Un changement de doctrine du maintien de l'ordre, c'est une phrase qui questionne l'ordre dans lequel nous sommes censés vivre, la police que nous voulons. Cela pose la question de sa formation, de son rôle et de ses limites, sachant que policiers, CRS et gendarmes, eux aussi, dénoncent une violence inédite sur leur terrain et particulièrement en manifestation. Alors étudiants, zadistes, migrants, mais que fait la police ? Et pour parler de ce sujet, nous recevons ce soir Arié Halimi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme et vous avez défendu plusieurs personnes dans le cadre d'affaires de violences policières et notamment la famille de Rémi Fraisse. On va en parler sans doute au cours de cette émission. En face de vous, Jean-Michel Schlosser. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue à l'Université de Reims au CEREP, le Centre d'études et de recherche sur les emplois et les professionnalisations, et vous êtes vous-même ancien policier. Vous avez d'ailleurs rédigé une thèse sur la formation des policiers. Et puis c'est une émission qui ce soir est en partenariat avec le journal La Croix et donc son directeur Guillaume Goubert m'accompagne ce soir dans la conduite de ce débat. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est le choix de la focale choisie dans le journal La Croix d'aujourd'hui qui titre sur les forces de l'ordre au défi des violences et sur la radicalisation de la violence en manifestation, mais aussi dans les universités, à Bure, à Notre-Dame-des-Landes, alors que le « Mais que fait la police » du titre de cette émission pose véritablement la question de la légitimité de l'action ou de la réponse de la riposte policière aujourd'hui. Peut-être que c'est là le cœur du questionnement aujourd'hui. Quand les zadistes se défendent des accusations de violence, ils répondent qu'ils ne font qu'adapter leur riposte à la violence des policiers. Et les policiers disent être victimes et témoins d'une violence jamais vue, d'une radicalisation des manifestants. Comment est-ce qu'on sort de cette impasse, Jean-Michel Schlosser ?
Très difficilement, parce qu'il y a effectivement, comme vous le signalez, des discours qui sont antagonistes. Hein. Les policiers se plaignent d'une violence qui serait beaucoup plus importante, qui serait beaucoup plus grave. Bon, les manifestants, les zadistes, bon, quel que soit le terme que l'on emploie, se plaignent de la même chose. Je pense que de part et d'autre, ce sont des choses qui doivent être entendues, et il y a sûrement un fond de vérité, et dans ce que disent les manifestants, et dans ce que disent les policiers. La problématique, bien évidemment, c'est que ce discours qui est antagoniste constitue une spirale, alors non seulement, bien sûr, une spirale de mots, mais également une spirale de gestes, une spirale de faits, qui entraîne des situations qu'on ne peut que regretter, et parfois même condamner, d'ailleurs.
Arié Halimi, sur cette question de l'impasse.
Je pense que l'impasse relève pour beaucoup de la posture, politique pour les syndicats de police, mais également de la posture politique pour ceux qui sont dans la contestation, puisque chacun revendique certaines choses, que ce soit les universitaires, les zadistes. Il y a effectivement beaucoup de violence, on peut le constater, puisqu'il y a de plus en plus de blessés, notamment dans les manifestations, mais il y en a toujours eu. Aujourd'hui, on excipe de cette violence parce que il y a des médias, parce que il y a des vidéos, ce qui n'existait pas auparavant.
Donc il y a un effet de loupe.
Il y a un effet de loupe, je pense. Si on reprend des mouvements comme en 77 pour Super Phoenix, il y avait déjà ce type de violence avec des grenades, avec des
là
morts.
Là où a été tué Vital Michelon.
Exactement. Vous aviez le même type de violence et le même type de contestation extrêmement radicale, on peut le dire, tant de la part des forces de l'ordre que de la part des manifestants. Aujourd'hui, on est dans la revendication de cette violence à des fins politiques, tant pour les manifestants que pour les policiers. Donc on est plus, à mon sens, dans la posture. Il y a plusieurs constats à faire, je pense. D'abord, il y a un contexte. Il y a un constat politique concernant ce contexte. Il y a une multitude de réformes aujourd'hui qui sont lancées en même temps. pour les universités, pour les cheminots, pour l'hôpital, pour la justice, et qui sont un petit peu à contre-courant des traditions françaises, sur les valeurs d'égalité à l'égard des migrants, sur les valeurs de solidarité. Et on a une très faible représentativité politique, puisqu'il y a très peu d'opposition, donc on a une contestation. Une contestation qui s'expose dans la rue et qui effectivement s'expose de manière peut-être un peu plus violente. Et c'est peut-être que ça explique cette augmentation de la violence. On a également, je pense, une vraie radicalisation de la police, parce qu'on parle de radicalisation des manifestants, mais je pense qu'on peut aussi utiliser le terme de radicalisation de la police. On a vu qu'il y a de plus en plus de violences policières qui sont traités d'ailleurs dans les tribunaux. On voit les syndicats de police monter au créneau, avoir des propos de plus en plus politiques, qui s'expriment également de manière partisane. On a vu des manifestations de police, de policiers, on a vu des manifestations interdites de policiers masqués. Donc il y a effectivement cette radicalisation de la police qui doit être prise en considération dans ce phénomène. Et puis il y a un constat juridique également, parce que finalement les policiers, ce sont les bras armés, c'est le bras armé de l'État. Et quand vous avez un État qui respecte de moins en moins le droit, on le voit avec les reconduites à la frontière, ou bien avec l'intervention sur des ZAD, eh bien, on a effectivement une radicalisation et une contestation plus importante.
Alors, le dernier rapport du Défenseur des droits sur le maintien de l'ordre au regard de la déontologie commence par définir cette doctrine du maintien de l'ordre à la française. C'est comme ça que c'est mentionné dans le texte. Et elle s'est bâtie, cette doctrine du maintien de l'ordre à la française, autour d'un processus de pacification de la gestion des manifestations, selon des règles hiérarchisées et collectives, avec un principe de mise à distance présenté comme fondamental et un recours présenté comme ultime à la violence. Or, ce rapport, bon, qui fait aussi état d'une plus grande violence des manifestants, dit que les opérations de maintien de l'ordre impliquent de plus en plus le recours, de plus en plus important, à des unités non dédiées à la gestion de l'ordre public, ce qui pose le problème du nombre et de la formation. Pourquoi un tel nombre de policiers, par exemple, à Tolbiac pour évacuer l'université, à Notre-Dame-des-Landes pour évacuer les zadistes aujourd'hui, Jean-Michel Schlosser, pourquoi est-ce que ce nombre doit être important alors que dans d'autres pays, on préconise plutôt justement une présence minime de la police pour apaiser ce maintien de l'ordre ?
Il y a sans doute, en termes d'estimation de la présence des forces de l'ordre, un progrès, effectivement, des réflexions à engager, quelque chose à changer. Le principe était jusqu'à présent, effectivement, la mise à distance. Et puis, l'idée qui prévalait, c'était que finalement, il valait mieux arriver en grand nombre, de façon à pouvoir ne pas avoir justement à se servir de la force. Alors, il se trouve que le fait d'arriver en grand nombre peut produire, et a produit d'ailleurs, dans les manifestations, l'idée que y a comme une forme de provocation, hein, une forme d'appel à la violence, et que ce trop grand nombre parfois de policiers peut conduire justement à un effet contraire qui est il y a Maître Ali vient de le dire, une forme de l'État, le bras armé de l'État est là, ils sont puissants, et bien nous allons réagir, ça c'est quelque chose sur laquelle il faut effectivement réfléchir, à l'instar de ce qui se passe notamment dans les pays étrangers.
Et ce nombre n'a jamais été remis en question au sein des forces de l'ordre françaises, par exemple ?
Pas vraiment. Moi, je voudrais quand même souligner aussi une chose qui me semble importante et qui a d'ailleurs été tout à fait soulignée par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Il faut prendre en compte aussi la disparition des renseignements généraux, qui est un phénomène extrêmement important, dont les effectifs ont été fusionnés avec une autre direction et dont les effectifs ont subi également la révision générale des politiques publiques, c'est-à-dire une forte baisse des emplois à taux plein sur des fonctionnaires qui étaient chargés du renseignement, de la collecte du renseignement, du maillage territorial, et qui avaient effectivement une fine connaissance des problèmes économiques, sociaux, etc. Ça, le renseignement territorial est en train de se restructurer maintenant, mais il faudra un certain temps avant de parvenir à l'efficacité, à l'efficience que nous connaissions avant. C'est effectivement un problème qui rentre en ligne de compte. Et puis je pense aussi que face à cette nouvelle radicalité, les forces de l'ordre ont préféré dans un premier temps effectivement jouer plutôt la carte de nous impressionnons par le nombre, hein, en ne prenant peut-être pas suffisamment en compte l'effet, l'image que ça peut avoir face à des manifestations manifestants qui se trouvent subitement un grand nombre, voire un trop grand nombre de policiers. Mais le problème existe aussi quand quelquefois ils sont en sous-nombre, ça peut arriver, et là on voit aussi l'effet pervers de certains groupuscules qui se disent, là, comme ils sont en sous-nombre, on va en profiter. Donc dans un cas comme dans un autre, de toute façon, il y a effectivement un problème de nombre qu'il faut résoudre, qu'il faut adapter le plus finement possible à la situation. Mais c'est pas facile. Je termine simplement en disant que la recomposition des acteurs, c'est qu'il y a une espèce de brouillage. Les acteurs aujourd'hui sont moins identifiés, les relations sont moindres. On a des formes de contestation qui sont habituelles, politiques, économiques, etc., avec des représentants, hein, les représentants syndicaux. Aujourd'hui, il y a un petit peu moins de relations. Évidemment, il n'y en a pas du tout en ce qui concerne
les groupes. Il y a moins d'intermédiaires.
Mais on en parlera sans doute.
Oui, en détail. Guillaume Goubert.
On peut se poser la question de savoir si on est capable de tirer les leçons des événements du passé pour adapter les méthodes, les doctrines de maintien de l'ordre. Je pense évidemment en particulier à ce qui s'est passé à Sivens avec la mort de Rémi Fraisse. Est-ce que, Ari Halimi, selon vous, les leçons ont été tirées de cet événement ?
Oh, je pense que c'est tout le contraire. Je vous prends l'exemple de ce qui s'est passé après la mort de Rémi Fraisse. Peu de temps après, le gouvernement a annoncé l'interdiction des grenades offensives. La grenade offensive est une grenade militaire qui était utilisée pendant la Première Guerre mondiale, qui tuait, et elle était utilisée par des gendarmes dans le cadre de maintien de l'ordre ou de manifestation. Elle a tué Rémi Fraisse, et aujourd'hui nous avons, en maintien de l'ordre ou dans les manifestations, l'usage de grenades qui ont très exactement les mêmes composants, à savoir de la TNT, des explosifs. Alors, en moindre quantité, certes, mais qui peuvent avoir exactement le même effet létal. Donc, on ne tire pas véritablement les effets du passé, les conséquences du passé. Et puis, on voit également que la doctrine du maintien de l'ordre est finalement celle qui a été utilisée à partir du gouvernement de M. Valls, à savoir une doctrine différente de celle du passé, qui était une doctrine visant à garder à distance les manifestants pour éviter justement les blessés et les morts, tant du côté des policiers ou des forces de l'ordre que du côté des manifestants. Aujourd'hui, on est passé dans une autre doctrine du maintien de l'ordre, qui est une doctrine du contact, qui est une doctrine visant à empêcher également la manifestation, le droit de manifester avec l'usage des NAS par exemple, et une doctrine qui tend à faire peur à la population qui venait habituellement dans les manifestations, notamment le 1er mai. Il convient de rappeler que le 1er mai, c'était une fête populaire, une liesse populaire, avec des familles, avec des enfants qui venaient pour la fête du travail. Aujourd'hui, vous pouvez voir un petit peu les personnes qui sont dans la rue. Il y en a de moins en moins parce qu'elles ont peur d'être blessées, d'être violentées. Donc je pense qu'au contraire, c'est aujourd'hui, le maintien de l'ordre est devenu un outil politique, un outil de répression, un outil de contrôle de la population dans le cadre de ces revendications qui relèvent du droit constitutionnel, le droit de manifester, le droit de grève. Voilà ce que j'en pense. Non, au contraire, je pense qu'on va de plus en plus loin dans cet usage.
Jean-Michel Chausser, vous partagez ce point de vue ?
Pas complètement, même si j'observe par ailleurs que j'entends souvent chez les chercheurs parler d'une possibilité de passer d'une forme, en tout cas la perception qu'on aurait, ce serait passer d'une forme d'ordre public à un ordre social, une sorte de naturalisation du champ social, et que la force publique serait intervenante dans des domaines qui outrepasseraient l'ordre public proprement dit. D'ailleurs, il y a des différences de point de vue, notamment sur les ZAD, en disant que les ZAD ne sont finalement pas véritablement des troubles à l'ordre public, peuvent relever d'autres incriminations du droit pénal, on ne rentre pas dans le détail, mais que l'État serait peut-être, oui, effectivement, beaucoup plus intervenant, en tout cas, ça pourrait être perçu comme ça. Donc on passerait, comme je disais, d'une forme d'ordre public élargi à une forme de contrôle social, et c'est sans doute, d'ailleurs, cette perception qui fait que certains groupuscules qui nient la légitimité de l'État reprochent en quelque sorte, et ne reconnaissant plus de fait la violence légitime conférée Weber. Moi, je crois qu'on traverse une crise actuellement qui est assez profonde, me semble-t-il, dans ce domaine, qui est une crise des valeurs et une crise qui va au-delà de l'adhésion à vouloir faire société. Et que cette crise se traduit par un rejet de l'État, par une remise en doute de la légitimité de l'État. Alors, dans ce mouvement, il y a évidemment une remise en cause du principe du monopole de la violence légitime. Et les organes qui l'incarnent, en l'occurrence la police et la gendarmerie, sont plutôt aujourd'hui considérés comme des ennemis, hein, par ceux-là même qui dénient à l'État sa légitimité. J'observe que, par ailleurs, que pas seulement les policiers et les gendarmes, hein, mais aussi ceux qui, dans leur mission, sont représentatifs de l'État ou qui constituent quelque part la figure ou la présence, professeurs, transporteurs, personnel hospitalier, etc. Bon, mais effectivement, il y aurait peut-être, pour moi, cette possibilité de perception d'un glissement, d'un contrôle tous azimuts qui irait peut-être empiéter sur les libertés individuelles.
Jean-Michel Schlosser, tout à l'heure, Ari Halimi parlait des leçons qui n'ont absolument pas été tirées d'une affaire, d'un drame comme celui de la mort de Rémi Fraisse sur le barrage de Sivens. Est-ce qu'il y a des leçons qui ont pu être tirées et mises à profit dans la formation des policiers aujourd'hui et des forces de l'ordre en manifestation? Par exemple, quand on dit, quand le rapport du défenseur des droits dit on est obligé de faire appel à des personnes qui ne sont pas formées, est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait un tronc commun de formation au maintien de l'ordre en manifestation? Est-ce que ça, c'est une possibilité? Est-ce que c'est déjà en train de se faire?
Alors, c'est déjà en train de se faire. La première chose, c'est qu'on va très certainement et très rapidement vers l'abandon du phénomène de judiciarisation au maintien de l'ordre, à savoir le recours à des unités non spécialisées, BAC, BIVP, etc., pour procéder à des interpellations à l'intérieur même des manifestations. Il y a des techniques, notamment qui nous viennent d'Allemagne, qui sont assez nouvelles, on aura peut-être l'occasion de vous parler tout à l'heure, qui sont actuellement étudiées, notamment par la cellule
SINAPS. Dites de désescalade.
La désescalade, mais aussi la façon d'interpeller, non plus pendant la manifestation, mais à l'issue de la manifestation, en procédant à des interpellations beaucoup plus ciblées. Bon. Donc ça, c'est une leçon qui a été tirée. S'agissant de la formation, il y a un progrès à faire. Alors, sur les unités véritablement professionnalisées, donc les compagnies républicaines de sécurité pour la police et les escadrons de gendarmerie mobile pour la gendarmerie nationale. Là, il existe une formation initiale et continue, avec des retours d'expérience, avec des entraînements, le centre de Saint-Astier pour la gendarmerie, d'autres centres pour la police. Ça fonctionne très bien. En revanche, pour les unités qui sont parfois appelées en renfort, je pense à une compagnie départementale d'intervention, une compagnie de sécurisation, voire même à des personnels de la sécurité publique dont on fait appel parce qu'on a un problème, hein, entendement. Là, sur ces unités, il est vrai qu'il n'y a pas véritablement de formation. Tout simplement parce qu'en formation initiale, tous les policiers ne sont pas amenés à servir dans des unités de maintien de l'ordre et il n'y a pas la nécessité de former au maintien de l'ordre policiers qui vont aller en PJ ou au renseignement, etc. Donc il y a un déficit de formation à ce niveau-là. Seuls les policiers qui sont affectés, je parle pour la police là, mais la gendarmerie c'est à peu près sensiblement identique, seuls les policiers qui sont affectés en CRS suivent ce qu'on appelle la MAP, le module d'adaptation au premier emploi, et sont formés là véritablement très professionnellement par les CRS. Mais pour les autres fonctionnaires de police, la plupart de sécurité publique, hein, c'est-à-dire le gardien de la paix de votre commissariat, non, il n'y a pas véritablement de formation, il n'y en a même pas du tout d'ailleurs, une petite approche au niveau de l'école. Et pour les compagnies d'intervention, c'est très variable. C'est très variable, ça dépend des endroits où ils sont positionnés, ça dépend du travail qu'ils ont à faire à côté, parce qu'ils ont d'autres missions, mais il n'y a pas véritablement de plan, de stratégie et de formation.
Il n'est pas là le problème, justement, qu'il n'y a pas véritablement de plan de formation homogène, d'homogénéisation de la formation?
Il est certainement en partie là, mais il serait aussi, je pense, dans le fait de recourir de moins en moins à des unités non spécialisées, hein, dans la mesure du possible, et de favoriser l'intervention dans les manifestations uniquement d'unités plus spécialisées, avec des interventions qui seraient repensées, c'est-à-dire différentes, et qui permettraient peut-être l'utilisation moindre d'hommes.
Ari Halimi, est-ce que c'est aussi votre avis? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les manifestations, dans les foyers de tension, il y a un manque de formation, de préparation des forces de l'ordre?
Ah mais je partage parfaitement cet avis, et j'en ai des exemples quotidiens. Je prends l'exemple d'un dossier que j'ai eu à traiter récemment, à savoir le dossier du lycée Bergson. Vous avez eu, pendant les lois travail, parce que ça a été quand même un moment, une période, où il y a eu énormément de violence, tant du côté des manifestants que du côté des forces de l'ordre. Et là, on se retrouvait dans un cas particulier, à savoir des policiers de la sécurité du commissariat du coin, hein, dans le 19e arrondissement, qui se retrouvaient en maintien de l'ordre, devant un lycée avec des gamins qui faisaient un blocus du lycée pour dire qu'ils voulaient contester également les lois travail. Et là, on a eu effectivement les violences auxquelles toute la France a pu assister, puisqu'elles ont été diffusées sur la presse avec un enfant de 16-17 ans qui a été extrêmement violenté par des policiers. Qu'est-ce qu'on a pu en tirer comme conclusion devant le tribunal ? Parce que ces policiers ont été jugés. Eh bien que ces policiers n'avaient eu strictement aucune formation au maintien de l'ordre. Et pourtant, on les envoyait faire du maintien de l'ordre, en plus contre des gamins qui faisaient leur première manifestation. Donc, une absence totale de gestion, une absence totale de sang-froid, une absence totale de connaissance du maintien de l'ordre et des maîtrises du maintien de l'ordre, qui c'est une vraie technique, effectivement, il y a certains sortes de formations, comme Saint-Astier, mais on a une problématique d'apprentissage et de formation en maintien de l'ordre en France. Je voulais quand même juste ajouter un petit mot, parce qu'on parle de pas mal de choses, oui. Mais il faut peut-être bien distinguer les choses, parce qu'on parle des ZAD, on parle des migrants, on parle des universités, et on parle de maintien de l'ordre. Mais ça n'est pas que du maintien de l'ordre, tous ces foyers. Hein. Il faut bien distinguer le maintien de l'ordre qui relève de la police administrative, dans le cadre des manifestations, sur la voie publique, toute manifestation, et puis la police judiciaire, lorsque des infractions sont commises ou des expulsions, mais ça relève de la police judiciaire ou du judiciaire tout court. Et c'est important parce que quand on intervient sur une ZAD, c'est pas du maintien de l'ordre, au sens propre du terme. On n'est pas sur des voies publiques, on est sur des terrains privés et on est là pour expulser des gens avec une autorisation judiciaire. Mmh. C'est important parce que le maintien de l'ordre, c'est pas tout. C'est pas à chaque fois que des policiers viennent intervenir contre des manifestants, des zadistes ou des migrants. Pareil, quand il s'agit des universités, ça relève un petit peu du maintien de l'ordre, mais du rétablissement de l'ordre avec des proviseurs, puisque ça dépend du proviseur, qui fait appel à la police pour intervenir dans les universités. Et puis, pour les migrants, c'est pareil, ça peut être aussi du judiciaire, parce que quand on interpelle un migrant pour éventuellement le mettre en centre de rétention, il y a une décision judiciaire. Donc tout ça, c'est pas du maintien de l'ordre. Il faut bien distinguer ces deux choses, et c'est important parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une confusion faite par l'État entre le maintien de l'ordre au sens propre du terme et la police judiciaire. C'est pour ça que sur des terrains d'intervention comme les ZAD, il peut y avoir des violences qui sont commises, dans la mesure où les manifestants, les ZADistes, les migrants, les universitaires, considèrent que la police en face ne respecte pas la loi, parce qu'elle intervient hors du cadre juridique normal. Et ça a été d'ailleurs le cas à Notre-Dame-des-Landes, puisque on a eu des interventions considérées comme étant en maintien de l'ordre contre des personnes qui étaient occupants, sans droit ni titre 7, certes, mais avec des interventions sans notification des décisions de justice, alors qu'ils ont une parfaite conscience de leurs droits.
Et vous parlez d'ailleurs, Ari Halimi, de cette perte de légitimité des forces de l'ordre, en considérant qu'elles n'ont pas ce mandat symbolique. Et dans l'affaire de Sivens, il y a eu un non-lieu pour le gendarme qui a tiré.
Qui est contesté. Hein.
Qui est contesté, mais il a été prononcé en première instance, c'est ça, par le parquet de Toulouse. On peut citer aussi l'affaire de Théo Luaca, qui est victime de viol, d'une agression par 4 policiers. Le policier inculpé de viol est toujours suspendu, mais les 3 autres inculpés de violence en réunion ont été réintégrés. Est-ce que il n'y a pas des éléments qui peuvent appeler à une perte de légitimité, à une perte d'autorité? Est-ce que l'État n'a pas un rôle à jouer dans justement plus de fermeté pour que ces forces de l'ordre là soient
Je pense que d'abord l'État a joué un drôle de jeu en utilisant les forces de l'ordre comme outil symbolique d'autorité, c'est-à-dire de montrer que celui qui a la force, c'est l'État, y compris dans des situations qui ne nécessitaient pas. Et donc effectivement, une multitude de violences, quelquefois illégitimes, et une absence éventuelle de traitement judiciaire de ces égalitaires, hein, de ces violences policières, avec une très faible proportion de poursuites, avec beaucoup de classements sans suite et de non-lieu contre les forces de l'ordre, alors que on le voit par exemple sur le dossier du Kid Valmy, une extrême fermeté et des condamnations très lourdes pour des personnes qui ont visé des policiers. Donc vous voyez, il y a une perception de la population, de la jeunesse, qui est contestataire, qui se repolitise, une perception de la police qui n'est pas une bonne perception, pas du fait de tous ces facteurs. Donc effectivement, il y a une délégitimation des forces de l'ordre, non pas parce que, et c'est pour, là, je ne partage pas votre avis, Monsieur Schlosser, non pas parce que on conteste le monopole légitime de la violence, mais parce qu'on constate un usage illégitime qui se multiplie de cette violence policière.
Et non condamné.
Et non condamné.
Guillaume Goubert.
Oui, le week-end dernier, près de Briançon, au col de l'Échelle, il y a eu une opération d'un groupe identitaire pour soi-disant bloquer la frontière en un lieu qui, ces derniers mois, a plutôt été un lieu où étaient présents les associations de soutien et d'aide aux migrants, et donc un risque d'affrontement entre ces deux camps. Est-ce que on ne risque pas, dans les temps qui viennent, de se trouver plus souvent dans des situations de ce type? Et est-ce que ça pose des problèmes? Est-ce que les forces de l'ordre sont organisées pour faire face à des situations comme celle-là, Monsieur Schlosser?
Écoutez, comme pour les ZAD, ce sont des situations qui posent effectivement de nouveaux problèmes aux forces de l'ordre, de par la configuration des lieux. Hein. Alors, est-ce que les forces de l'ordre sont prêtes? Oui, elles sont prêtes. Évidemment, le maintien de l'ordre ou le rétablissement de l'ordre dans des zones urbaines telles qu'on le connaît traditionnellement, c'est quelque chose absolument maîtrisé par la police, même si il y a, je suis d'accord avec vous, quelquefois des utilisations illégitimes d'armes ou de coups, mais c'est quelque chose de relativement maîtrisé. En revanche, sur des secteurs en province, dans les campagnes, dans les montagnes éventuellement, bon, ça pose d'autres problèmes. Il est évident que s'il y avait à nouveau, ce n'est pas à souhaiter bien évidemment, la redondance de ce type de fait, il faudrait bien évidemment s'adapter. Mais là encore une fois, bon, la police ne s'appartient pas, hein, comme disait Michel Foucault, et elle reste pour l'instant le bras armé, même si l'appellation est peut-être pas très heureuse, mais le bras armé de l'État. En tout cas, le monopole de la violence légitime. Je disais que, pour revenir tout de suite sur ce que vous venez de dire, maître, je n'ai pas dit que on n'était pas d'accord. Les contestataires n'étaient pas d'accord pour reconnaître à la police le monopole de la violence légitime, mais ne reconnaissaient plus la légitimité de l'État, plus exactement. Et de ce fait, voilà. Mais c'était pas directement sur la police qui ne fait après tout qu'incarner le pouvoir. Sur les décisions de justice qui ne seraient pas prises ou pas prises, qui ne m'appartient pas de commenter au demeurant, mais sur des condamnations de policiers, et là on parle de bras armés de l'État, je voudrais simplement faire une différence. Dans un État démocratique, effectivement, l'ordre public est confié à la police. Après, pour le reste, il y a le côté pouvoir exécutif et le côté pouvoir judiciaire. Donc, n'accusons pas le pouvoir exécutif de ne pas condamner ces policiers. Vous savez que les policiers sont parmi les fonctionnaires d'État les plus surveillés, les plus contrôlés et souvent les plus punis sévèrement, administrativement je parle. Pour ce qui s'agit des condamnations judiciaires, il faut se tourner vers la justice.
Je prolonge une seconde sur le col de l'Échelle, parce qu'en dehors du caractère géographique de cet événement, il y a aussi cette dimension d'éventuelle interposition entre des groupes d'idéologies radicalement opposées. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé dans les hypothèses de maintien de l'ordre, de faire face à des situations comme celle-là qui n'ont pas été si fréquentes, me semble-t-il, au cours des dernières décennies?
Oui, mais l'interposition entre des groupes différents, bon, ça s'est déjà vu, hein, même y compris dans des manifestations politiques que je qualifierais de plus traditionnelles, où vous avez des partisans d'un bord politique et d'un autre bord politique qui s'affrontent, quelquefois même sur des enjeux géostratégiques, hein, bon, pour ne pas citer les problèmes palestiniens, etc. Donc ça, c'est des choses qui se sont déjà vues, et effectivement, la police, alors, ça pose d'autres problèmes, hein, ça met en œuvre d'autres tactiques, sans doute d'autres forces aussi, mais bien évidemment, elle est habituée à faire face à ce type de manifestation.
Ariel Imi, vous
voulez réagir? Je voudrais intervenir sur le col de l'Échelle. Moi, il me semble, c'est une analyse pas assez subjective, hein, personnelle, mais qu'il y a une forme de volonté ou de mission politique d'intervention. Et ce n'est pas le seul exemple. Hein. On l'a vu également à Montpellier, dans l'université lorsque des milices privées sont intervenues.
Pour zéro étudiant, c'est
toléré, ça par, par l'administration de l'université. On a un phénomène qui est de plus en plus important en France et qui suit ce mouvement de privatisation des services publics, où on a une volonté finalement d'avoir recours à, même au niveau régalien, force régalienne, c'est-à-dire la violence légitime, à des services privés, à des milices privées. Et donc il y a une forme de tolérance. Et quand on voit que le ministre de l'Intérieur n'intervient pas ou ne fait pas intervenir au col de l'échelle alors qu'on a des identitaires qui empêchent l'arrivée de migrants, qui bloquent les frontières alors qu'il n'y en a plus au niveau européen, on a effectivement un sujet d'inquiétude par rapport à la volonté des pouvoirs publics de faire respecter de manière traditionnelle l'état de droit. C'est dans la droite file de ce que je vous disais, hein. On a vraiment un état qui s'éloigne de plus en plus de l'état de droit, quand on sait que par exemple l'état est de plus en plus condamné par les juridictions administratives mais également par la Cour européenne des droits de l'homme pour les reconduites de mineurs à la frontière sans décision judiciaire, directement dans les trains, voire dans les avions. On a vraiment un état qui délibérément s'astreint à ne pas respecter finalement ses propres règles, et ça c'est un véritable sujet d'inquiétude.
Autre sujet d'inquiétude probablement dont on n'a pas encore parlé, c'est justement la gestion des migrants. On peut en effet parler de manque de formation concernant les ZAD, les manifestations, mais qu'est-ce qu'il en est des migrants, de la perte, est-ce qu'il y a la perte de confiance dans les forces de l'ordre, ne se situe pas là quand on voit des forces de l'ordre éventrées, des tentes gazer de l'eau potable. Jean-Michel Schlosser, qu'est-ce qui se met en œuvre dans ces moments-là?
D'abord, je voudrais dire que...
Dans cette logique de maintien de l'ordre qui n'en est pas, en fait.
Les dérives qui ont été constatées concernant le comportement de certains policiers qui auraient déchiré des tentes, bon, ça c'est absolument condamnable, hein, évidemment. C'était une plus extrême fermeté, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Bon. Maintenant, sur le cas particulier des migrants et des camps de migrants, pardonnez-moi cette comparaison, mais la police et cette situation, comme les antalgiques, sont à la pharmacopée. C'est-à-dire qu'on peut, pendant un certain temps, atténuer la souffrance, voire la faire disparaître, mais la maladie reste. Or, les policiers se sentent complètement, et je ne fais pas de jeu de mots, complètement désarmés face à ces situations, où ils interviennent en tout dernier. Bon, je ne minore pas, bien évidemment, le rôle des différentes associations. Non. Mais ce sont des situations qui ont été créées, et donc bien évidemment les policiers n'ont rien à voir là-dedans. Et quand je disais qu'ils sont désarmés, c'est qu'on va leur demander de gérer quelque chose à laquelle ils ne peuvent pas apporter de réponse. Alors, est-ce que l'État, et on pourrait faire un parallèle avec les ZAD d'ailleurs, n'aurait pas dû intervenir plus tôt pour proposer tel type de solution ou, bon. Mais il est vrai que dans ce domaine-là, ben, la police, que voulez-vous qu'elle fasse? C'est un petit peu difficile. Le policier est un homme aussi, il a une femme, il a des enfants, il sait ce que c'est que la misère sociale, il la côtoie sans arrêt. Hein. Bon.
Il y a ce rapport de l'ACAT, association chrétienne, qui des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui a publié en 2016 un rapport sur les violences policières et qui cite une opacité profonde et de graves défaillances dans les enquêtes administratives concernant et judiciaires concernant des plaintes suite à des violences policières. Sur 89 cas étudiés, seuls 7 ont donné lieu à des condamnations. Le fait de ne pas reconnaître de faits de violence illégitimes qui restent certes minoritaire sans doute, mais qui existe quand même. Est-ce que ça contribue à ternir encore les forces de l'ordre et leur légitimité, Ariel Halimi ?
Alors oui, et puis je vais reprendre un peu la dichotomie qui avait été faite par M. Schlosser tout à l'heure, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Et là aussi, je suis un petit peu en désaccord avec l'appréciation qui consiste à dire que ce n'est pas à l'État de juger. Ben si, il y a des enquêtes déontologiques, il y a des enquêtes administratives à chaque fois qu'il y a des manquements.
Qui n'aboutissent pas toujours, du coup.
Alors, encore faut-il qu'elles soient mises en œuvre. Je vous prends l'exemple du dossier Bergson que j'ai pris tout à l'heure, mais de la plupart des dossiers que j'ai eu à traiter en matière de violence policière, qui ont eu un traitement judiciaire avec des conclusions de condamnation, eh bien, il n'y a pratiquement eu jamais de sanctions administratives contre les fonctionnaires de police engagés dans cette violence. Il y a une vraie solidarité du ministère de l'Intérieur avec les forces de l'ordre, quelles que soient les exactions qui peuvent être commises. Ça, c'est un enjeu politique parce que il y a un lien indéfectible entre le ministère de l'Intérieur, donc le gouvernement, et son bras armé, et ils ne veulent pas que les syndicats se sentent lâchés par l'Intérieur. Ça, c'est une réalité absolue, hein, on le voit tous les jours. Et puis, il y a le côté judiciaire. Et le judiciaire, c'est également des fonctionnaires. Des fonctionnaires magistrats qui travaillent avec les mêmes forces de l'ordre. Parce que pour faire des enquêtes, ils ont besoin de la police, et que on le voit, mais c'est quelque chose qui est manifeste, hein. Eh bien, on voit que le traitement judiciaire des violences policières est totalement bâclé, orienté. D'abord parce qu'il est la plupart du temps confié à des fonctionnaires de police qui connaissent les mêmes fonctionnaires de police. Je vous prends l'exemple à nouveau de Sivens et de l'enquête sur la mort de Rémi Fraisse. Ce sont des gendarmes qui connaissaient les gendarmes impliqués qui ont interrogé les témoins. Quand je dis interroger, avec la manière dont ils voulaient les interroger et orienter l'affaire, parce que ce sont les enquêteurs qui orientent les investigations et qui conduisent avec, bien évidemment, la supervision du juge, les enquêtes. Donc, pour résumer, on a un problème structurel, véritable, dans les violences policières, c'est que on demande à l'autorité judiciaire et à l'État de se juger soi-même. Et c'est absolument dramatique. Et
alors,
c'est la raison
qu'il faudrait
pour laquelle
faire
il faut absolument repenser. D'abord, à court terme, à mon sens, à chaque fois qu'il y a des violences policières, faire un dépaysement. À chaque fois que je demande un dépaysement devant un tribunal...
C'est-à-dire ?
Un dépaysement, ça veut dire qu'on change de tribunal, on change de lieu, pour déjà qu'il y ait moins de promiscuité et de proximité entre les personnes impliquées et les personnes qui vont en faire l'enquête. C'est pratiquement toujours refusé. Pourquoi ? J'en ai aucune idée, mais effectivement, c'est la première chose. À long terme, il faut penser à une autorité d'investigation et de jugement qui soit totalement déconnecté des personnes qui sont poursuivies ou à qui on reproche. Alors, il y a l'IGPN et l'IGGN aujourd'hui. Mais là encore, ce sont des fonctionnaires de police. Et on a plutôt tendance à considérer que l'IGPN, même s'ils font un travail important en matière de droit commun, c'est-à-dire quand il y a des vols ou des infractions qui sont reprochées à des fonctionnaires de police qui ne relèvent pas des violences, en revanche, pour les petites violences policières qui n'impliquent pas de vidéos ou de dossiers sensibles, eh bien, on a une IGPN qui ne va pas poursuivre véritablement.
Jean-Michel Schlosser, sur cette question, est-ce que les forces de maintien de l'ordre n'ont pas à se juger elles-mêmes ? Est-ce que c'est à d'autres instances
prendre en charge le sujet ? C'est très intéressant, mais sur l'idée d'autorité indépendante, absolument indépendante pour juger les policiers, ça avait déjà été évoqué dans le début des années 80, quand la gauche est arrivée au pouvoir. Elle l'a proposé, mais ça n'a jamais été mis en œuvre. Mm-hmm. Ça présente d'autres problèmes. Il n'est pas évident de juger, d'analyser, de faire éventuellement des préconisations à partir d'un métier ou d'une activité qu'on ne maîtrise pas et qui présente des environnements et des mises en situation extrêmement, extrêmement difficiles. Mais l'idée avait été évoquée, et la police, d'ailleurs, n'était pas contre, hein, à l'époque, à condition peut-être qu'il y ait une forme de britaïsme, mais des gens extérieurs à l'institution, oui.
Alors le sociologue Jacques Demaillard, c'est une dernière question assez rapidement, parle d'un antagonisme au sein de la police entre le « nous » et le « eux ». Est-ce que c'est ça le problème ? Est-ce que la police aujourd'hui et les forces de maintien de l'ordre ne se situent pas assez dans la sphère du citoyen, se considèrent un peu trop comme à part, au-dessus, exclus ? Est-ce que ce serait ça qu'il faudrait changer, Ariel Aline ?
Qu'il faudrait changer, ça implique un changement social profond.
Un changement
profond.
De culture
mais
profonde,
oui. Je partage totalement ce constat parce que, et on le voit de plus en plus, un phénomène très inquiétant, c'est la politisation des syndicats. Et donc, un phénomène de corps et de corporatisme beaucoup plus important.
Qui rend les changements beaucoup plus difficiles.
Oui, puisque lorsque on s'inclut dans sa sphère, je vous donne un exemple très rapide, quand on va dans les commissariats pour les gardes à vue, on voit de plus en plus de badges de syndicats de police. Il y a vraiment cette identification des policiers et par là même, un antagonisme plus important avec le reste de la population.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux, Arié Halimi, avocat, membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme, et Jean-Michel Schlosser, sociologue à l'Université de Reims. Merci également à vous, Guillaume Goubert, directeur du journal La Croix et partenaire de notre émission du jour. Merci à l'équipe du Grain à Moudre, Antoine Tricot, Antoine Dulster, Fanny Richer, Virginie Leduo, Prune Saez Contreras. Émission réalisée par l'ISCOM avec ce soir à la prise de son Jacques Azubert. Vous pouvez la réécouter et la podcaster, cette émission, sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre, mais pas avant d'avoir et au moins écouté la dispute de ce soir. Bonsoir, Lucille Comeau.
Rebonsoir, Émilie Chaudet. On vous retrouve, vous, demain en direct et en public du Bel Air à la Maison de la Radio pour un grain consacré à
la France doit-elle assumer sa politique migratoire.
Dans quelques minutes, c'est donc la dispute consacrée ce soir à la littérature. Mais tout de suite, ce sont les titres de l'actualité avec Fiona Mogadam. Bonsoir, Fiona.
Bonsoir, Lucille. Bonsoir à tous.